en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation trop bienveillante. Merci de m'avoir invité, Monsieur le Perpétuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Mesdames et Messieurs membres de l'Académie. En effet, le 28 mars 2013, le Président de la République avait annoncé aux Français un choc de simplification. Et dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, lancé en novembre 2012, par son gouvernement, la simplification pour les entreprises était identifiée comme l'un des 8 leviers de la croissance. Le Conseil de la simplification pour les entreprises, une structure originale associant ces entreprises à des administrations et à des élus, était alors instituée. Vous l'aviez dit, Monsieur le Président, le choc annoncé n'a toutefois pas eu lieu. Dans l'étude annuelle qu'il a réalisée au titre de l'année 2016, « Simplification et qualité des droits », après des études consacrées au même sujet en 1991 et en 2006, le Conseil d'État a dressé un sévère constat d'échec de cette politique telle qu'elle a été menée en France jusqu'à ce jour. Tout en reconnaissant l'importance des efforts accomplis, il juge les résultats si insuffisants qu'il appelle solennellement à un changement de culture normative. Ce bilan est largement partagé, je citerai la Cour des comptes, en ce qui concerne les prélèvements pesant sur les entreprises ou encore la délégation sénatoriale aux entreprises. Les termes utilisés par ces acteurs sont forts. Il est notamment question d'une maladie de la norme, d'une boulimie normative que rien ne semble pouvoir calmer. La promesse de simplification fait ainsi figure de mantra de la communication publique contemporaine. Du fait de ses résultats introuvables, elle démontre l'impuissance publique et alimente la frustration et le scepticisme à l'égard des décideurs. La doctrine a pu parler d'illusion de la simplification. La difficulté à passer en la matière de l'affirmation de l'idéal à sa réalisation n'est toutefois pas propre à la France. Comme l'a constaté l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, dans son rapport de 2011, pourquoi la simplification administrative est-elle si compliquée ? Pourtant, l'heure n'est pas à l'abandon de cet idéal. Sa poursuite demeure à l'ordre du jour dans divers systèmes juridiques, par exemple celui de l'Union européenne, où la complexité sévit aussi. En témoigne l'adoption, le 13 avril 2016, de l'accord interinstitutionnel mieux légiféré, en vue, je cite, cet accord de simplifier la législation et d'éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations et les entreprises. L'idée que la complexité du droit serait une fatalité est d'ailleurs démenti par la comparaison avec les systèmes étrangers, démarches adoptées par le Conseil d'État comme par d'autres acteurs, pour analyser le phénomène, et démarches qui montrent que des résultats tangibles peuvent être obtenus. C'est d'ailleurs aussi et surtout pour affirmer la nécessité de maintenir le cap et ainsi relancer la réforme de la simplification du droit que le Conseil d'État a réalisé cette étude en 2016, la troisième sur le sujet. Il ne se borne pas à décrire la situation, il fait des propositions au pouvoir public pour guider leur action, tout en souscrivant pour la sienne propre un certain nombre d'engagements. L'heure est venue, non pas de mettre en doute notre capacité à réaliser la réforme, mais de réfléchir à la démarche pouvant mener au succès. Cela suppose de repenser l'idéal de simplification du droit en vue de remobiliser autour de lui et de refonder la politique destinée à l'atteindre à la lumière de ses échecs. Pour se réaliser, l'idéal de simplification doit pouvoir s'appuyer sur une large adhésion, ce qui suppose d'en adopter une conception juste. Bien qu'il corresponde à un besoin impérieux de notre économie, cet idéal se heurte en effet à des résistances qu'il faut identifier pour pouvoir surmonter. De manière générale, il y a un consensus sur le fait que la simplification du droit est facteur de dynamisme comme de compétitivité économique. Les normes juridiques qui créent des charges, tout le monde le sait, qui pèsent sur l'activité des agents économiques. Ainsi, disait l'ancien gouvernement, une réduction de 25% de ces charges économiserait 15 milliards d'euros pour les entreprises et, selon l'OCDE, conduirait à une hausse de 0,8 point de produit intérieur brut. Pardon, c'est un calcul de la Commission européenne cette fois. La complexité, il faut en être conscient, entrave tout particulièrement le développement des petites et moyennes entreprises, sur lesquelles le poids des charges administratives pèse à proportion de leurs ressources plus lourdement que sur les grandes. Elle les empêche de croître et crée ainsi des distorsions dans le tissu économique français, qui est déjà caractérisé par l'insuffisante quantité d'entreprises de taille intermédiaire. 60% de moins qu'en Allemagne, moitié moins qu'en Grande-Bretagne, et même, ce qui est plus surprenant, un tiers de moins qu'en Italie. La simplification du droit s'impose encore plus en économie ouverte, car elle influe directement sur la compétitivité internationale d'un pays, et plus précisément sur son attractivité pour les entreprises. Cette compétition économique internationale s'incarne notamment dans les classements internationaux des cadres juridiques nationaux selon leurs performances, dont ceux de la Banque mondiale, du Forum économique mondial et de l'OCDE. La France y enregistre de très piètres performances en ce qui concerne les charges administratives qui pèsent sur les entreprises, pour lesquelles elle est classée 115e sur 138 dans le classement du Forum économique mondial. Quelles que soient les critiques d'ordre méthodologique que ces classements appellent, ils influencent fortement les décisions des acteurs économiques, et plutôt que de combattre la démarche dans son principe, comme c'est assez souvent la tendance en France, sur d'autres classements par exemple, il faudrait introduire leurs critères dans les objectifs de performance des administrations. D'autant que la perception de la qualité d'un système juridique national, qu'elle soit ou non fondée, détermine son influence dans la mondialisation, ce qui est en soi un facteur de puissance économique, et que la capacité de ce système à s'exporter est synonyme d'avantage économique, comme le démontrent abondamment les exemples britanniques et américains. La prise de conscience de l'enjeu que représente désormais la compétition dans ce domaine favorise le développement dans notre pays d'une approche économique du droit, consistant à juger ce dernier au regard de ses effets économiques. La réforme récente du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016 s'inscrit dans cette démarche. Le rapport au président de la République sur ce texte affirme, je cite, que dans une économie mondialisée où les droits eux-mêmes sont mis en concurrence, l'absence d'évolution du droit des contrats et des obligations pénalisait la France sur la scène internationale, et que l'enjeu au niveau international d'une telle réforme du droit français est économique. Alors, citation des rapports Doing Business de la Banque mondiale, qui mettent régulièrement en valeur les systèmes juridiques de common law et qui ont notamment contribué à développer l'image d'un droit français complexe, imprévisible et peu attractif. Dans ce contexte, poursuit le rapport au président de la République, se doter d'un droit écrit des contrats plus lisibles et prévisibles, en s'attachant à adopter une rédaction dans un style simple, ainsi qu'une présentation plus claire et didactique, constitue un facteur susceptible d'attirer les investisseurs étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher leurs contrats au droit français. Pourtant, malgré le besoin qu'a notre économie d'une simplification du droit, celle-ci se heurte à des résistances qu'il faut surmonter. L'idée même qu'il faut simplifier le droit est loin de faire l'unanimité. Elle est plus subversive que consensuelle dans un contexte culturel national qui reste favorable à l'intervention de l'État dans l'économie. C'est surtout le cas de la simplification destinée aux entreprises, celles qui visent par exemple à faciliter l'accès aux prestations sociales, semble en revanche plus consensuelle dans l'opinion publique. Plus généralement, cette opinion publique est convaincue que légiférer est la solution à tous les problèmes. La chasse au vide juridique est un sport national, pratiqué dans tous les milieux, y compris d'ailleurs dans les milieux économiques. S'agissant des entreprises, la simplification est par ailleurs suspectée de n'être qu'un faux prétexte pour mener des réformes libérales, procès d'intention idéologique qui n'est pas propre aux acteurs politiques et syndicaux et qui trouve un écho dans la doctrine juridique. Pour certains auteurs, le discours sur l'inflation législative ou normative serait une vulgate relevant d'une croyance et remplirait une fonction idéologique au service du libéralisme économique et d'une nouvelle forme d'anti-élitisme et d'anti-parlementarisme, je cite, car ce n'est pas mes termes, d'essence expertale et peut-être liée à la promotion du gouvernement de l'entreprise. Vous trouverez les références de ces citations dans ma version écrite. Le juge lui-même, pour peu qu'il prenne en compte les effets économiques de certaines mesures administratives non contraignantes, prises de position ou recommandations, pour admettre qu'elles puissent faire l'objet d'un recours malgré leur absence d'effet juridique, comme le Conseil d'État l'a fait récemment, se voit accusé assez rapidement d'être, je cite, « au service du grand capital ». C'est sous forme de question, mais enfin, on voit que la réponse est dans la question. Tel est encore plus le cas lorsqu'on adopte une conception moderne de la simplification du droit à visée économique. Traditionnellement, en France, la simplification est conçue exclusivement sous l'angle de l'amélioration de sa qualité formelle, c'est-à-dire de sa clarté, de son intelligibilité et de son accessibilité. Cet objectif remonte, vous le savez, à l'adoption du Code civil en 1804, mais depuis 1999, il a valeur constitutionnelle. Mais c'est là seulement l'un des aspects de la simplification du droit propre à libérer l'économie. La vraie simplification doit porter sur le contenu même de la norme et sur les charges administratives qu'elle entraîne, et notamment les coûts de la mise en conformité des acteurs avec toute norme nouvelle. Le Conseil d'État préconise ainsi de réduire les coûts induits par les normes plus que leur nombre et d'agir ainsi sur le critère principal retenu par les classements internationaux. Or, la tâche de simplification du droit, dont l'immense difficulté ressort de ses échecs, ne peut s'accomplir que grâce à un changement profond de culture normative qui s'apparente à une révolution culturelle. Sa réussite requiert une mobilisation totale de l'ensemble des acteurs et l'adhésion la plus large autour d'une juste conception de sa nature, de ses objectifs et de ses priorités. La première chose, c'est que la simplification du droit doit se concilier avec sa qualité et être conduite de manière réaliste. La qualité du droit est un objectif fédérateur, mais elle est parfois considérée comme antinomique avec la simplification. Si le langage juridique peut évoquer le jargon d'une tribu, c'est d'abord parce qu'il traduit des concepts très affinés. Portalis relativisait déjà la portée simplificative du code. Le code, disait-il, même le plus simple, serait-il à la portée de toutes les classes de la société ? Les auteurs modernes affirment que plutôt que de prendre le risque de déconstruire, mieux vaudrait conserver la richesse de notre langue, reflet de la précision de nos concepts. La simplification peut aussi être synonyme d'appauvrissement du sens. Il ne faudrait pas que celle du droit aboutisse au remplacement d'un édifice sophistiqué par une construction rudimentaire, inadaptée à l'organisation d'une société complexe comme la nôtre. Elle manquerait alors son but, tant du point de vue formel que matériel. Ainsi, l'encadrement efficace de la vie des affaires suppose-t-il de protéger des intérêts divers, voire opposés, ceux des créanciers comme ceux des entrepreneurs, par exemple. L'étude du Conseil d'État sur l'action économique qui a été menée avant celle de simplification en 2015 souligne ainsi que les règles juridiques, fiscales et administratives ne sont pas conçues dans le seul but de promouvoir l'activité économique. Elles visent un équilibre propre à chaque société en fonction de sa culture et de ses traditions entre différents intérêts, publics et privés, entrepreneurs, consommateurs, salariés. Il faut éviter à cet égard de verser dans un droit de l'attractivité qui ne serait qu'une forme dénaturée de l'ordre juridique de l'État concerné ayant renoncé à ses exigences propres et à ses spécificités. Donc j'ai cité là l'étude 2015 sur l'action économique des personnes publiques. Il faut donc se convaincre que la simplification du droit est inséparable de sa qualité, comme l'avaient déjà soutenu les deux précédentes études du Conseil d'État menées sous l'angle de la sécurité juridique. Ainsi conçue, la simplification rencontre nécessairement des limites, car un droit de qualité comprend un degré inéluctable de complexité, mais qu'il faut mesurer au plus juste. Sans renoncer à son ambition, la politique de simplification doit tenir compte des facteurs structurels poussant à une complexité accrue de notre droit, mais aussi de ce que l'exigence de simplicité n'est pas exempte de contradictions. La complexité du droit contemporain est d'abord accrue par l'accélération du progrès technique. La manifestation la plus récente de ce progrès technique et de cette accélération est l'émergence très rapide, pas encore massive, mais très rapide et très visible, de l'économie des plateformes numériques. Il faut également incriminer la prolifération des normes supérieures qui s'imposent à la loi, lesquelles ne sont pas toutes produites par l'Union européenne. La Constitution, par exemple, s'enrichit ainsi presque chaque année de dispositions de nature très hétérogène, dont la portée est parfois incertaine. Je citerai par exemple le principe de précaution. L'interprétation que lui donne le juge constitutionnel contribue aussi à augmenter l'impact de cette constitution sur l'économie avec une force accrue du fait de la saisine de ce juge par la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que l'a démontré le professeur Yves Godemet dans sa contribution à l'étude du Conseil d'État sur l'action économique des personnes publiques. Les nouvelles compétences confiées aux collectivités territoriales par le mouvement continu de décentralisation peuvent aussi faire obstacle à la simplification. Ainsi, le guichet unique pour les autorisations environnementales, institué en janvier 2017 pour simplifier et accélérer l'instruction des projets industriels, ne concerne pas le permis de construire, car il s'agit d'une compétence communale qui échappe au contrôle de l'État. Ce guichet unique, qui n'est donc pas unique, il n'est unique que pour l'État, n'atteint donc pas son objectif, ou en tout cas pas totalement son objectif. La France est enfin très active dans la signature et la ratification de nouvelles conventions internationales, dont certaines peuvent même apporter des garanties supplémentaires pour les entreprises, le cas échéant sans que leurs négociateurs en aient été conscients. Ainsi, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui assimile très souvent personnes morales et personnes physiques pour l'application de son système de protection. Enfin, qui dit garantie, dit en général complexité. Voilà, enfin, pas déclaration doctrinaire. La libéralisation de l'économie contribue également de manière paradoxale à la complexité du droit. Ainsi, l'ouverture à la concurrence des industries de réseau pousse au développement de la fiscalité propre à un secteur économique, dite fiscalité sectorielle, caractérisée en France, cette fiscalité sectorielle, par son baroquisme et surtout par son dynamisme, puisque son volume est 10 fois plus important que chez ses voisins, l'Allemagne par exemple. La contribution au service public de l'électricité, la fameuse CSPE, a ainsi été instituée pour compenser les charges découlant de l'ouverture de ce secteur à la concurrence, et plus précisément les surcoûts résultant de l'obligation faite aux fournisseurs historiques d'acheter l'électricité produite par cogénération ou par des énergies renouvelables. Outre cette contribution est en soi très complexe, son dynamisme est beaucoup plus fort que celle du tarif de l'électricité, ce qui n'est pas toujours bien perçu par les acteurs. Et si l'architecture de ces tels dispositifs est complexe, c'est notamment pour respecter la législation européenne sur les aides d'État et ainsi ne pas fausser la concurrence. Reste que la complexité excessive doit être combattue, celle qui n'est ni imposée par une norme supérieure, ni strictement nécessaire à l'efficacité des politiques publiques. S'il faut admettre que les normes sont aussi productrices d'externalités positives, elles ne doivent pas créer des charges encore supérieures pour les usagers. Or, tel est trop souvent le cas. Ainsi, les multiples prélèvements pesant sur les entreprises, qui sont facteurs pour elles de coûts de gestion et de démarches administratives redondantes, et même d'ailleurs pour l'administration, mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, alors que 3 de ces prélèvements, à eux seuls, produisent 85% des recettes, ce qui veut dire que tout le reste ne représente que 15%. Il y a là, manifestement, une inefficacité du système. En conclusion du colloque organisé par le Conseil d'État sur la fiscalité sectorielle, le président Michel Pébrot faisait observer que si celle-ci est par nature complexe, parce que diverse, et si elle poursuit le plus souvent un objectif légitime d'internalisation des externalités pour tenir compte des bénéfices ou des coûts que des comportements individuels procurent ou imposent à la collectivité et ainsi corriger des failles dans le fonctionnement du marché, la fiscalité sectorielle peut aussi répondre à une logique de rendement, pure logique de rendement, ce qui est pourtant en principe le rôle de la fiscalité générale. Elle contribue ainsi à l'augmentation du niveau général des prélèvements obligatoires qui est déjà devenu déraisonnable en France. Le manque de lisibilité qui la caractérise, cette fiscalité sectorielle, permet en effet d'aggraver les charges fiscales plus discrètement qu'en recourant à la fiscalité générale, en composant avec le principe démocratique cardinal du consentement à l'impôt. Chacun a noté en effet qu'on ne regarde que le niveau de la TVA et de l'impôt sur le revenu, peut-être la taxe d'habitation. La complexité intrinsèque du droit alimente alors, tout en la masquant, la croissance des charges qui pèsent sur les acteurs économiques. Alors, par ailleurs, et là j'aborde les problèmes de la contradiction interne à l'entreprise de simplification. Quelles sont les qualités d'un droit simple et comment, surtout, hiérarchiser ces qualités? Viennent à l'esprit la concision, la clarté, l'accessibilité, la cohérence, mais aussi la stabilité, l'adaptabilité, l'adéquation aux réalités, notamment économiques. Or, ces qualités ne sont pas toutes compatibles entre elles. Ainsi, la clarté du droit exige-t-elle un degré de précision qui qui s'accommode parfois mal de la concision. La taille d'un texte n'est pas une preuve absolue de complexité, aussi longtemps du moins qu'elle ne confine pas à l'obésité. À cet égard, un article de code qui fait à lui seul plus de 10 pages est forcément illisible. Quand il s'agit, comme dans l'exemple donné par l'étude 2016 du Conseil d'État, de l'article qui définit le bénéfice imposable des entreprises, l'attractivité économique de la France s'en ressent nécessairement. Lorsque notre pays produit annuellement plus d'un million de caractères en lois, ordonnances et décrets, sans même compter les arrêtés, circulaires, autres actes réglementaires, on peut affirmer sans crainte qu'il aggrave déraisonnablement la complexité de son système juridique. Donc, ceci pour l'obésité. Autre exemple d'impératif potentiellement contradictoire, la stabilité du droit, qui est citée dans toutes les études comme prioritaire. Mais il faut parfois y renoncer pour satisfaire d'autres exigences, comme l'adaptation au changement économique ou la réparation des outrages du temps sur des textes ou des codes devenus illisibles à force d'ancienneté, d'ajouts et d'amendements. Qui plaiderait aujourd'hui, au nom de la stabilité du droit, contre la refonte du Code général des impôts ou du Code des assurances ? La simplification du droit est donc par nature une entreprise complexe qui procède de la recherche de subtils équilibres et nécessite des arbitrages. Elle a par ailleurs un coût, car on ne simplifie pas sans transformer ni renoncer à certaines garanties. Dès lors, elle ne résulte pas de décisions purement techniques, mais de choix politiques. Si la France a jusqu'ici échoué à simplifier vraiment son droit, c'est d'abord parce qu'elle n'a pas identifié les causes de cet échec. Une simplification propre à libérer notre économie nécessite d'en faire une véritable politique publique contraignante pour l'ensemble de ses acteurs. Faire de la simplification une politique du droit, une politique publique à part entière, suppose de construire une stratégie cohérente dont la qualité de mise en œuvre soit mesurée de manière objective, mais aussi contrôlée à travers son inscription dans la vie démocratique de notre pays. L'efficacité de cette politique, elle est d'abord minée en premier lieu par la dispersion des initiatives en faveur de la simplification du droit. Il faut donc articuler ces initiatives et les hiérarchiser. Comme l'a relevé l'étude de 2016, mais aussi la délégation sénatoriale à la collectivité territoriale, la délégation sénatoriale aux entreprises, le Conseil national d'évaluation des normes, un ensemble de simplifications ponctuelles ne peut avoir le même effet structurel qu'une véritable régulation de la production normative s'inscrivant dans la durée et traduite dans le processus d'adoption des textes, comme chez nos partenaires européens les plus importants et les plus performants en la matière. La politique de simplification doit donc être définie et mise en œuvre sur la durée d'une législature. Elle doit être placée sous la responsabilité du Premier ministre et définie dans un texte unique, dans un plan unique. Le besoin de cohérence est d'autant plus grand que la dispersion du pouvoir réglementaire entre des mains de plus en plus nombreuses confirme nos désordres normatifs, pour reprendre les mots de mon collègue Bernard Stirn devant votre académie. Pour atteindre un résultat réel, la politique de simplification doit également disposer d'instruments de mesure de la prolifération normative et de son coût pour les usagers et notamment pour les entreprises. Notre étude de 2016 relève en effet que les pouvoirs publics ne tiennent pas le compte du stock des normes et de son accroissement annuel et qu'ils, en tout cas, ils ne tiennent plus depuis 2012 et ils ne disposent pas davantage, ce qui est plus grave, d'une méthode de calcul de la charge administrative en résultant pour les entreprises notamment. Rejoignant sur ce point la délégation sénatoriale aux entreprises, l'étude recommande donc en premier lieu de se doter de tels instruments, conditions nécessaires pour bien diriger l'effort de simplification. Peut-être pourrais-je donner des exemples précis de ce que j'entends par là lors de la discussion avec votre académie. La faisabilité de la réforme en la matière est démontrée par les exemples néerlandais, britanniques et allemands. Le dispositif allemand est le plus performant puisqu'il repose sur une autorité indépendante, le Conseil national de contrôle des normes, qui travaille avec le statisticien national allemand et publie ses résultats ainsi que son évaluation du coût de chaque norme en préparation. Donc, c'est fait en Allemagne, donc c'est faisable. En effet, rendre publique une mesure objective de la complexité du droit et de sa simplification permet le contrôle démocratique et le jugement des responsables publics sur leurs résultats dans ce domaine. L'incitation actuelle est exactement inverse. Les ministres rivalisent pour attacher leur nom à une nouvelle loi et jugent leurs collaborateurs sur leur aptitude à leur en fabriquer une dans les meilleurs délais. Tenir des comptes publics sur le sujet est une des conditions du changement de la culture de la création juridique qui est la nôtre. La mesure des résultats en termes de coûts, leur certification indépendante et la publication de cette mesure et de cette certification permettent aussi d'aider les pouvoirs publics à résister aux demandes de nouvelles normes émanant notamment des acteurs économiques qui veulent se protéger contre des évolutions pourtant inéluctables, comme l'ubérisation, par exemple. De telles demandes contribuent plus à la complexité de notre droit qu'à l'attractivité de la France. L'obligation de réussite doit également peser sur l'ensemble des acteurs et à toutes les étapes de la production normative, y compris à celle de sa mise en œuvre, afin de traiter les conséquences de la complexité irréductible. Compte tenu de la production naturelle de complexité qui a été décrite tout à l'heure, la simplification du droit existant est insuffisante pour produire des résultats durables. Or, c'est principalement sur le stock et non sur le flux de complexité normative que le Conseil de la simplification pour les entreprises a pour l'heure été consulté. Les gains produits par les mesures de simplification adoptées sous son impulsion ont été de ce fait grignotés par le flux parallèle d'obligations nouvelles créées par l'activité normative, qui n'a pas cessé. D'autant plus rapidement d'ailleurs que ce sont les coûts de mise en conformité avec les nouvelles règles qui pèsent le plus sur les entreprises et surtout sur les petites entreprises. Notre étude de 2015 sur l'action économique avait par ailleurs souligné les effets négatifs de l'instabilité du droit sur la capacité des entreprises à anticiper, à construire des modèles économiques, à monter des projets industriels, et elle avait recommandé d'éviter autant que possible de modifier le droit qui s'applique à elle en étudiant sérieusement les alternatives à la modification de la norme. Cela suppose une approche quantitative, mais aussi qualitative. L'approche quantitative consiste à agir sur le volume de la production de nouvelles normes et des charges qui en découlent. Elle peut s'inspirer d'initiatives et de pratiques d'autres ordres juridiques, consistant à faire prendre aux gouvernants des engagements à ne pas dépasser un certain volume de production normative sur une période donnée. C'est ce qu'ont fait, par exemple, la commission Juncker de l'Union européenne, l'ancien Premier ministre M. Cameron pour la Grande-Bretagne. Le gouvernement, les solutions anglaises sont en général assez radicales, il faut bien le reconnaître. Le gouvernement peut aussi s'engager à n'intervenir qu'une fois dans un domaine particulier du droit autour d'une législature, par exemple aux Pays-Bas, c'est le système. Des objectifs précis en termes de production normative et de limitation des charges administratives en découlant peuvent encore être fixés, par exemple au moyen de ce qu'on appelle des budgets de normes, plafonds à ne pas dépasser, qui sont utilisés au Royaume-Uni comme en Allemagne. La démarche qualitative consiste à renoncer aux dispositifs trop complexes, ce qui suppose un diagnostic préalable, objectif et vérifiable. L'évaluation préalable des nouvelles normes par une étude d'impact introduite dans notre droit par la réforme constitutionnelle de 2008 fait suite à une proposition du Conseil d'État dans son étude de 2006. La loi prévoit que ces évaluations doivent notamment exposer les objectifs poursuivis par le projet, recenser les alternatives à la production normative, préciser son impact, notamment ses effets économiques, et les charges supplémentaires qu'elle induit. Dans son étude de 2016, le Conseil d'État a constaté l'inefficacité de la démarche, telle qu'elle a été jusqu'ici mise en œuvre en France. Constat partagé par d'autres acteurs, et il a préconisé d'en modifier les modalités. Il faut d'abord, mais peut-être que j'aurais dû commencer par l'autre versant. Enfin, je vais susciter les réactions du président de Matsama. Il faut d'abord élargir le champ d'obligation, ce qui n'est pas une bonne réponse lorsque l'obligation n'est pas bien respectée. Mais bon, il faut élargir le champ d'obligation. Actuellement, il ne porte que sur les projets de loi tels qu'ils sont adoptés en Conseil des ministres. Il faut l'élargir à tout ce qui s'y ajoute pendant la discussion parlementaire, parce que celle-ci peut en effet tripler, voire quadrupler, la taille initiale du texte et en bouleverser ainsi l'impact. Et ceci depuis la même réforme de 2008 et les pouvoirs qu'elle a donnés au Parlement, dans la fabrique de la norme. Il faut de même élargir l'obligation aux ordonnances et aux décrets, ainsi qu'aux actes des autres autorités dotées d'un pouvoir réglementaire, par exemple les collectivités territoriales. Il faut par ailleurs compléter ces évaluations ex ante par des évaluations ex post, c'est-à-dire au vu de la mise en œuvre, pour corriger les effets pervers des dispositifs adoptés. En introduisant dans les textes des clauses de réexamen, ce ne sont pas la même chose que des clauses de cessation de la validité de la loi, mais des clauses de réexamen, c'est le cas au Royaume-Uni, par exemple, à échéance de quelques années suivant l'adoption du texte. Les dispositifs économiques nécessitent plus que les autres une telle mesure de leurs résultats, notamment les résultats des régulations sectorielles au regard des objectifs poursuivis. Mais cet élargissement n'aura de sens que si le contenu de ces études est amélioré et contrôlé de manière indépendante et publique. Pour l'heure, l'étude d'impact est trop souvent un exercice formel destiné à justifier après coup une décision politique et non pas l'outil d'aide à la décision publique qui avait été préconisé par ses inventeurs. Dans cette optique, deux réformes s'imposent. La première consiste à procéder à une réelle évaluation de la nécessité de créer de nouvelles normes, en étudiant les autres solutions envisageables dans le cadre d'une étude d'option et constitutive d'une première étape de l'évaluation ex ante. L'étude d'impact proprement dite n'en étant que la seconde étape. C'est au regard de cette première étude, dont il faudrait publier les résultats, là aussi, que le Premier ministre devrait décider de poursuivre le projet ou au contraire l'abandonner, donc ce qui suppose une décision du Premier ministre, une décision formelle. La seconde réforme consiste à instituer une certification de l'évaluation qui soit publique et indépendante, en s'inspirant là encore de dispositifs adoptés par nos partenaires, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne ou par l'Union européenne. Ce contrôle externe qui, dans certains pays, peut stopper le processus normatif est une condition d'efficacité de la simplification. Dans son étude de 2015, le Conseil sur l'action économique, le Conseil d'État avait déjà fait cette proposition pour les projets ayant un impact économique significatif, constatant que la décision en cette matière étant technique, elle doit faire l'objet d'une instruction d'autant plus minutieuse, particulièrement au regard de ses effets économiques, qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'impact sur les finances publiques, à quoi se résument beaucoup d'évaluations préalables. On aurait aimé, par exemple, disposer d'une certification indépendante et publique de l'étude d'impact sur la mise en place de la retenue à la source. Je rappelle que cette étude d'impact affirmait qu'elle ne se traduirait par aucune charge administrative pour les employeurs, tout en produisant une baisse des coûts de la collecte par les services fiscaux. Alors, sur le premier point, un rapport de l'inspection des finances vient de nous indiquer que ça coûtera plusieurs centaines de millions d'euros aux employeurs. Mais j'aimerais bien aussi qu'on réexamine la deuxième affirmation, suivant laquelle ce sera moins cher pour les services fiscaux, j'en doute tout autant. Ce contrôle de qualité doit se combiner avec un contrôle plus sévère du Conseil d'État lorsqu'il est saisi pour avis du projet de loi. Le Conseil d'État s'est engagé à donner plus souvent des avis défavorables sur les dispositifs trop complexes et à consacrer des développements spécifiques à cette question dans son rapport annuel d'activité. Ces engagements ont commencé à produire des effets en 2017, mais il y a des marges de progression. Ce contrôle serait en plus plus efficace si le Conseil constitutionnel, qui s'est borné jusqu'ici à une vérification formelle des rubriques traitées par l'étude d'impact, procéder à un contrôle du contenu de ces études dont les conclusions seraient susceptibles d'affecter le processus législatif lui-même. Jusqu'ici, il ne s'y est pas prêté. En deuxième lieu, il convient de confronter de manière plus systématique la norme à ses destinataires. Le Conseil d'État a préconisé d'instituer à cette fin un conseil unique d'évaluation des normes composé de trois collèges distincts, dont l'un serait compétent pour les entreprises et remplacerait l'actuel Conseil de la simplification pour les entreprises, donc on lui soumettrait les normes nouvelles. Ces efforts devraient enfin être relayés par une modification profonde de la formation des fonctionnaires à l'écriture des textes, qui ne devrait plus se borner à la régularité juridique, mais intégrer la qualité et la simplification à travers l'étude des alternatives à la norme, à travers l'évaluation de la norme et les techniques de simplification. En cette matière, des résultats ne peuvent être obtenus que de manière progressive, dans la durée. Il ne peut donc s'agir d'un choc, seulement d'un chemin de simplification, d'une montagne même, qui ne peut être gravie que pas à pas. Mais à supposer acquise cette révolution culturelle, il faut également traiter les conséquences de la part irréductible de la complexité du droit. À cet égard, doit être instauré et respecté le principe suivant lequel la gestion de la complexité doit être prise en charge par la sphère publique et non pas reportée sur les administrés. Répondent à ce principe les dispositifs de guichet unique ou de, dites-le-moi une fois, propre à alléger en les regroupant les démarches et déclarations des usagers, notamment des entreprises. Les investisseurs étrangers, par exemple, bénéficient d'un point d'entrée unique auprès du directeur général des finances publiques. Il faut non seulement généraliser ces dispositifs autant que possible, mais aussi, peut-être surtout, exploiter les données qu'ils fournissent alors sur les difficultés qui subsistent et qui sont propres à fournir de nouvelles pistes de simplification. Changer le droit existant porte le plus souvent atteinte à des situations acquises et à des projets économiques en cours. Les juges administratifs et constitutionnels veillent toutefois à ce que ces atteintes respectent le principe de garantie des droits qui interdit, sans motif d'intérêt général suffisant, de porter atteinte aux situations légalement acquises ou de remettre en cause les effets pouvant légitimement être attendus de telles situations. Les cours européennes appliquent des principes équivalents dans leurs champs de compétences respectifs, comme le principe d'espérance légitime de la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose une proportionnalité des atteintes aux droits acquis à l'intérêt général qui est invoqué. Il est surtout utilisé en droit fiscal, mais il n'est pas réservé au droit fiscal. Il en résulte une obligation générale pour toute norme nouvelle d'éviter la rétroactivité et de prévoir des mesures transitoires. Cependant, un changement du droit peut ne pas être rétroactif, mais s'appliquer à des faits passés, comme c'est le cas par exemple pour l'imposition des revenus et des bénéfices, qui est fixée au 31 décembre pour tout ce qui a été perçu ou réalisé pendant l'année ou l'exercice en cours. On parle de rétrospectivité ou de petite rétroactivité. Un engagement de limiter ce phénomène, source d'insécurité pour les entreprises, a été pris par le ministre des Finances en 2014. Il n'est pas interdit à ses successeurs de le respecter et même de l'élargir aux textes non fiscaux. On peut certainement aller plus loin pour éviter de déstabiliser l'environnement juridique des activités économiques. Une confrontation plus systématique des projets de normes nouvelles à leurs destinataires, par exemple par des consultations ouvertes sur ceux qui ont un impact économique significatif, peut permettre aux entreprises de mieux anticiper leurs effets. Connaître avec certitude quel est le droit applicable à votre situation ou votre projet et éviter de l'apprendre une fois le projet réalisé ou le contrôle lancé par l'administration contribue également à sécuriser les acteurs économiques. C'est le rôle du rescrit par lequel l'administration prend formellement une position qui pourra lui être opposée sur l'application d'une norme à une situation de fait. Instituée dans le domaine fiscal, la technique du rescrit a été élargie en 2015 à d'autres domaines, droit du travail, de la sécurité sociale, de la consommation, de l'occupation temporaire du domaine public de l'État, du contrôle des structures des exploitations agricoles. Mais l'ambition de ce texte reste nettement en deçà de ce qu'avait recommandé le Conseil d'État dans une étude sur le rescrit de 2013 que j'ai apportée avec moi et qui sera versée dans votre bibliothèque. Il y a donc des marges de progression. En tant que juge, le Conseil d'État vient par ailleurs d'assouplir sa position traditionnelle sur l'impossibilité de contester un rescrit fiscal autrement que devant le juge de l'impôt. Il a admis le recours direct lorsqu'une telle prise de position a supposé que le contribuable s'y conforme entraînerait des effets notables autres que fiscaux, par exemple en le soumettant à de lourdes sujétions, en le pénalisant sur le plan économique, en l'amenant à abandonner ou à modifier fortement son projet. Le contentieux a ainsi, et c'est heureux, limité les risques du rescrit lorsque son résultat ne correspond pas aux espérances du justiciable. Dans un esprit comparable, il a admis que puissent être contestées devant lui les mesures non contraignantes prises par les autorités de régulation si elles entraînent des effets notables, notamment de nature économique, ou entendent orienter les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent. Il s'agit notamment des communiqués, des recommandations et des informations rendues publiques par ces autorités. Il a enfin rappelé que l'administration ne peut pas sanctionner des actes alors qu'à la date des faits, la règle en cause n'était pas suffisamment claire, de sorte que leurs auteurs ne pouvaient raisonnablement prévoir qu'il s'agissait d'un comportement fautif. Pour apprécier si la règle était claire, il prend en compte les positions exprimées par l'administration. L'espèce jugée en 2016 concernait le ministère du Travail, alors même que ces prises de position étaient sans valeur juridique. En conclusion, la simplification du droit applicable aux entreprises est aujourd'hui une nécessité si pressante qu'elle relève d'un devoir que pourrions qualifier de patriotique. Sa réalisation n'a rien d'impossible. La France, en France comme à l'étranger, elle a ses succès, à partir desquels il est possible de construire l'avenir, selon une méthodologie rigoureuse et en s'appuyant sur des engagements politiques soumis au contrôle des citoyens. Si la simplification du droit évoque le mythe de Sisyphe, il en va ainsi de la condition humaine dans son ensemble. Le droit est une construction sociale. Sa complexité est le fruit de l'action des hommes. Sa simplification est donc, elle aussi, à leur portée. La perspective d'un droit simple relève, certes, un peu de l'utopie, mais il est des utopies utiles, dès lors qu'il est possible, si ce n'est d'atteindre l'horizon qu'elle dessine, à tout le moins de s'en rapprocher. Je vous remercie.